On est dans cette série sur les valeurs de l'EBTM. On a déjà évoqué à plusieurs reprises une des valeurs clés qui est l'Évangile. Et puis on a à présent évoqué une seconde valeur clé, la Bible. Et j'aimerais qu'on lise les Écritures dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Et on lira des versets 2 à, du chapitre 3, verset 1er, au chapitre 4, verset 4. 2 Timothée 3, on n'est pas arrivé. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous réjouir, Seigneur, à ta parole, à l'écoute de cette parole. Nous voulons considérer aussi les temps dans lesquels nous vivons, des temps difficiles selon l'apôtre Paul lui-même, selon ta parole. Nous voulons, Seigneur, saisir cette parole de vérité, nous l'approprier, l'appliquer à nos cœurs pour qu'il soit changé, pour que nos vies soient transformées à l'image de Jésus-Christ. Merci de nous secourir, merci de nous aider dans l'écoute de ta parole et pour moi-même, Seigneur, à l'exposer clairement. Par Jésus-Christ. Amen. On raconte que l'écrivain russe Dostoïevski, condamné à être fusillé pour ses activités révolutionnaires, elle fut finalement déportée dans un camp de concentration en Sibérie. Revenu de son bagne, avec le Nouveau Testament qu'il avait emporté, il disait ceci: « Pour moi, tout est clair. Personne n'est plus beau, plus profond, plus compréhensif, plus parfait que Christ. Il ne peut exister quelqu'un de meilleur. Si on devait me prouver que Jésus-Christ est en dehors de la vérité, je préférerais rester avec lui que de rester avec la vérité. Mais Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et sur son lit de mort, Dostoïevski réclama le Nouveau Testament qu'il avait tant médité en Sibérie. Et il le montra, ce petit livre, usé à ses enfants en leur disant « Ne vous séparez jamais de ce livre et surtout ne doutez jamais de l'amour et du pardon de Jésus. » Il transmettait le bien le plus précieux de son héritage à ses propres enfants. Nous portons notre attention sur les dernières paroles des apôtres, parce que nous croyons que les dernières paroles d'un homme contiennent comme l'héritage qu'il veut transmettre. Nous avons déjà vu l'héritage de l'apôtre Pierre dans la deuxième épître la semaine dernière. Nous verrons prochainement, Dieu voulant, l'héritage de Jude, le demi-frère du Seigneur. Nous considérons aujourd'hui celui de Paul, pour trouver toujours le même bien, le plus précieux à leurs yeux, savoir la parole de Dieu. Et ici, nous trouvons une injonction particulière qui nous servira aussi de titre: prêche la parole. Prêche la parole. Et j'aimerais que ce matin, on regarde trois choses. D'abord, que aucune injonction plus solennelle n'a été donnée par l'apôtre Paul. Aucune injonction plus solennelle. Aucun besoin plus impérieux pour le monde. Et puis enfin, aucun autre outil plus efficace pour le croyant. Alors, aucune injonction plus solennelle. D'abord, cette injonction: je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. J'aimerais qu'on regarde que cette injonction, elle est tellement solennelle à cause de son auteur. Ici, ce sont les dernières paroles. On est dans le dernier chapitre que l'apôtre Paul est en train d'écrire. Ces derniers mots avant sa mort. Paul a été l'implanteur de plusieurs églises. Il est l'auteur d'une large partie du Nouveau Testament, dont 2 Timothée. Il est le témoin fidèle de Jésus-Christ. Il est maintenant, aujourd'hui, à Rome, dans l'attente de son exécution. Il sait que sa vie touche à sa fin. Il dit au verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Il dit pour moi, « Ça y est, j'ai fini ma course !» Alors quand il dit, « Je t'en conjure, il y a ici le poids de toute une vie vécue pour proclamer la parole de Dieu. Et puis son destinataire, c'est Timothée. Il l'appelle « mon enfant bien-aimé dans la foi » au chapitre 1, verset 2. Il est converti par le témoignage de l'apôtre à Lystre. Il était d'un père grec et d'une mère juive. Il semble que sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs aient connu et aimé le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et c'est à côté d'elle que Timothée a reçu et grandi dans l'Évangile. Mais le Père n'étant pas mentionné, il est fort possible qu'il n'ait pas partagé les mêmes convictions que le reste de la famille. Et c'est pourquoi il y a un tel attachement entre l'apôtre Paul et Timothée. C'est pour ça que Timothée a besoin d'un père. Il lui dit, mon enfant bien-aimé, mon fils, je t'en conjure, prêche la parole. C'est l'apôtre Paul lui-même qui a envoyé Timothée à Éphèse. Il a envoyé Timothée à Éphèse parce qu'il y avait une situation difficile à Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, il y avait toutes sortes de personnes qui commençaient à se détourner. Paul l'avait prophétisé, qui allaient se détourner de la vérité. Et il a envoyé son fils bien-aimé et lui a dit, maintenant va là-bas et prêche la parole, parce que seule cette parole peut restaurer l'église. Et Timothée, il est timide. Il est certainement impressionné par les différentes personnes qui l'entourent et les difficultés auxquelles il a à faire face. Et c'est pourquoi, quand l'apôtre Paul lui dit « Je t'en conjure, Timothée », c'est les dernières paroles d'un père à son fils. Et c'est cela qui fait la beauté de ces paroles, la valeur de cet héritage. Et puis simplement à cause du poids des mots, jamais Paul n'a parlé de la sorte. Jamais il n'a mis autant de poids dans un ordre. Je t'en conjure. C'est pas un verbe qu'il emploie souvent. Il l'a employé trois fois dans le Nouveau Testament, les trois fois c'est à Timothée qu'il s'adresse. Je t'en conjure. On ne l'emploie pas non plus fréquemment. Mais quand on utilise « je t'en conjure », c'est parce qu'on veut mettre tout l'accent sur un ordre très particulier. On sait l'idée, si tu oublies tout le reste, ne retiens cela. Je t'en conjure. Ne laisse pas cela. Je t'en conjure. Prêche la parole. Et puis, ce qui est tellement fort ici, c'est qu'il dit « devant Dieu ». Il prend Dieu lui-même à témoin. Et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, il va te juger. Tu vas devoir rendre compte de ton administration devant lui. Je t'en conjure, prêche la parole. Ce n'est pas un caprice de vieillard qui me fait parler. Je pèse mes mots. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu prêches la parole. Comment voudrais-tu avoir agi lorsque tu seras appelé à rendre compte de ton administration devant le Seigneur Jésus-Christ? Que tu aies prêché la parole. Prêche la parole. C'est-à-dire, annonce ou proclame la parole. C'est le travail des héros, de ces messagers du roi, qui parcouraient les villes et qui, sur les places publiques, annonçaient les décrets du roi. Un peu comme cela, « Oyez, oyez !» Le message du roi. « En ce jour, votre roi convoque tous ceux qui l'ont détesté, qui l'ont rabaissé, qui ont conspiré contre lui. Il les invite tous à venir déposer les armes de leur rébellion, à se détourner de leur sédition, et de jurer fidélité au roi, par lequel, à cause du sacrifice de son fils Jésus-Christ, il vous accorde un plein pardon, et cela pour l'éternité. Et un jour, connu de lui seul, il viendra vivre avec nous, et nous donnera toutes les bénédictions de son trésor. Voilà la parole du roi. Il ne s'agit pas simplement d'enseigner, il faut le faire. Il ne s'agit pas d'analyser simplement des vérités ou de discuter sur les choses de la parole de Dieu, mais il s'agit de proclamer ces vérités, de les prêcher, de les annoncer. C'est ce que Jonas a fait lorsqu'il est allé à Ninive. Il l'a fait avec un mauvais cœur, avec une mauvaise disposition de cœur. Mais il a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite à cause de vos péchés. Mais Ninive sera détruite dans 40 jours. Et c'est parce que la parole de Dieu a été prêchée par Jonas que Ninive tout entière s'est repentie de ses péchés. Le Seigneur Jésus lui-même, dans la parole, dit, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Il s'agit de prêcher la parole, c'est-à-dire pas mes pensées que j'ai eues ce matin en buvant mon café. Non, c'est la parole, c'est-à-dire tout le conseil de Dieu. Ce que Paul appelle au verset 16, l'écriture. Il s'agit de prêcher ce que le texte dit et non ce que l'on peut dire sur le texte ou ce qu'on aimerait qu'il dise. Au verset 4, il dit « insiste en toute occasion favorable ou non ». Ça, ça veut dire « prêche la parole tout le temps ». Les occasions, elles sont soit favorables, soit défavorables, mais il n'y a pas une troisième possibilité. Et dans les deux, il faut prêcher la parole. Prêche la parole tout le temps. Il faut saisir l'occasion et prêcher. Il faut le faire avec courage. Il faut le faire avec amour, avec sagesse. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'idée ici, avec toute douceur, c'est avec une patience inlassable. Quel travail. Prêche la parole. Aucune injonction plus solennelle que celle-ci. Et puis, aucun besoin plus impérieux pour le monde. Le monde est complètement à la dérive. Il est sans repère, sans direction. Il est incapable de discerner sa droite de sa gauche. Jonas, qui pleurait sous le ricin qui avait fané, et repris par l'Éternel, l'Éternel lui dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » La fin de l'année et le début de l'année prochaine va être occupé en France sur des questions d'éthique. Mais ces questions sont terribles. Et les hommes qui écrivent des lois les écrivent sans le moindre repère. Sauf celui qui est décrit dans le chapitre 4, les versets 3 et 4. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Et on est en train de juste essayer de satisfaire le cœur tortueux, immoral, complètement dévoyé, inique de l'homme. Et on cherche juste à lui satisfaire. C'est complètement inique. Pourquoi ? Parce que le monde a perdu tout repère. Et sans repère, ils ne savent absolument pas ce qui est bien et ce qui est mal. Le rôle des prophètes d'Israël, c'était précisément cela, de rappeler ce qui est bien et de dénoncer ce qui est mal. Ils l'ont fait avec une passion. Ils ont rappelé, c'est lui le Créateur, et c'est sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. S'en éloigner, c'est courir à notre propre perte. Regardez comment les paroles du prophète Osée, chapitre 4, je lis au verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, Osée 4, 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Pourquoi le pays sera dans le deuil ? C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez la chose. C'est terrible. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et c'est pour cela qu'ils s'égarent complètement. C'est pour cela qu'il y a une telle violence. Quand on regarde la description de 2 Timothée chapitre 3, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, toute la description ici, c'est la description du cœur de l'homme. Vous savez quoi ? Il n'y a pas de traitement contre l'égoïsme. Allez dans les pharmacies, parapharmacies. Demandez, le problème avec l'égoïsme, il n'y a rien. Rien pour l'amour de l'argent, non, rien. Rien contre la vantardise et la prétention, non, rien. Aucun traitement contre l'orgueil et la rébellion. Aucun traitement contre l'ingratitude, l'insensibilité. Aucun traitement contre l'irrespect, la calomnie ou la trahison. Aucun traitement contre la cruauté, l'hypocrisie et le formalisme. Aucun traitement autre que celui de la parole de Dieu appliquée au cœur de l'homme. C'est la parole qui peut révéler l'état de nos cœurs, elle seule. C'est la parole qui peut révéler Jésus-Christ comme l'antidote de tout péché. Il a mené une vie à l'opposé de toute cette description. Il est lui, la parole faite chair. Et si nous portons nos regards sur la parole faite chair, si nous prêchons la parole, nous portons nos regards sur la parole faite chair, Jésus-Christ, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Là où aucun homme ne peut aller, aucun médecin n'est capable de discerner entre l'âme et l'esprit, entre la jointure et la moelle. Mais la parole de Dieu pénétrante porte incise dans les cœurs. Le monde qui nous entoure a un urgent besoin de la parole de Dieu. Malheureusement, il ne le sait pas. Et c'est cela la grande tristesse. Et c'est pour cela qu'il y a une nécessité de prêcher la parole. Si vous laissez un Nouveau Testament entre les mains de quelqu'un qui veut vraiment savoir, alors avant la fin des quatre évangiles, la parole de Dieu aura fait de lui un chrétien. Je me souviens d'un homme dans une situation personnelle dramatique. Au bout du rouleau, la veille d'être jeté à la rue, il s'est tourné vers Dieu, il a dit, « Dieu, si tu m'aides à trouver un logement, moi je fais un petit effort de te connaître. » Le lendemain, il avait un logement et quelqu'un lui avait donné un traité avec l'adresse d'une église. Il était plein de doutes, il s'est dit, mais je ne suis pas bien sûr que Dieu soit là-dedans. Mais quand même, je me souviens que j'ai fait une prière hier et... Bon, je vais y aller quand même à cette église, juste pour être honnête avec moi-même, quoi. Il y est allé, il a vu des chrétiens, il a entendu le message, la parole de Dieu, mais il n'écoutait pas vraiment. On lui a dit, tu devrais lire la Bible. Lundi, il est allé acheter une Bible, et puis on lui avait dit de commencer par le Nouveau Testament, qu'il a commencé. Et avant la fin de la semaine, avant la fin de l'évangile de Matthieu, il était tombé sur ses genoux, repentant, réalisant combien il était coupable, combien Jésus-Christ était parfait, et combien il avait été aimé par Jésus-Christ sur la croix. Et par la foi en Christ, il a reçu un plein pardon. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu ici. Je m'empresse d'aller le saluer à la fin du culte. Et puis, il me dit, bon, vous ne me reverrez pas, j'étais juste venu accompagner la demoiselle là-bas. En plus, je suis complètement athée, moi. Oh, j'ai dit, écoutez, j'ai un livre pour les athées. Et je lui offre une Bible. Quelques temps plus tard, il revient. Je dis, tiens, je ne pensais pas te revoir. Il me dit, mais j'ai compris. Je dis, quoi, t'as compris? Oui, j'ai compris, je suis devenu chrétien. Alors je dis, comment ça? Il me dit, mais j'ai lu. Je dis, t'as lu quel livre? L'Ecclésiaste. En lisant l'Ecclésiaste, il a compris que sa vie n'était que vanité et qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Et il a accepté Jésus-Christ. Il a épousé la fameuse jeune fille et il marche avec le Seigneur depuis. Ici, on voit que la parole de Dieu, elle est juste efficace en la lisant. Mais voyez-vous, quand on ne pense pas que le secours viendra de là, on n'y prête même pas attention. Et c'est pourquoi il faut prêcher la parole. Romains chapitre 10, verset 13 dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» La Bible, c'est l'unique, le seul besoin que le monde a. Il n'y a pas plus grand besoin pour ce monde. Lorsque Jésus parle de la parole, la parabole des terrains et de la semence, il dit la semence c'est la parole de Dieu. Il dit dans la première épître de Pierre, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Jacques dit la même chose, vous avez été sauvés par la parole de Dieu. Jésus dit en Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra point en jugement. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 31, il dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. » Oui, aucun besoin plus impérieux pour le monde que d'entendre la parole de Dieu. Et puis enfin, aucun autre outil plus efficace pour le croyant. Je voudrais revenir sur le chapitre 3, verset 14, il dit « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Sachant de qui tu les as apprises. Voyez ici, Timothée, il est en pleine lutte. Il est en lutte avec la prédication de la parole dans son Église. Son père spirituel lui écrit et lui dit au chapitre 1, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, et qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. » Dans de telles circonstances, quand les temps sont difficiles, la pensée qui nous vient à l'esprit, c'est de dire, ok, je vais juste édulcorer mon message, je vais juste les brosser dans le sens du poil. Je vais juste leur donner un petit encouragement, comme ça. Comme ça, juste comme ça. Un truc qui, voilà, ça va pas les déranger, ça va pas bouleverser leur vie. Ça. Et puis moi, pas de problème. Moi, comme ça, j'aurais pas de problème. Et Paul dit ici, Timothée, fortifie-toi dans la grâce, chapitre 2, verset 1. Chapitre 3, verset 1, il dit, Timothée, il y aura des temps difficiles. Et chapitre 4, verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Et c'est quoi ton ministère, Timothée? C'est de prêcher la parole. Quelle est la vocation que tu as reçue? Celle de prédicateur de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la même vocation que moi-même j'ai reçue, que Paul a reçue, que moi-même, Vincent, j'ai reçue aussi au chapitre... premier du livre de Colossiens, j'ai l'impression de vous lire ces versets-là chaque message. Mais au verset 25, elle dit « C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Les raisons pour lesquelles il doit demeurer sur ce fondement, Paul lui dit « Sachant de qui tu les as apprises. » Je suppose que, à cause du verset 15 qui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres », je suppose que Paul fait référence ici à la mère et à la grand-mère de Timothée. Au fond, il fait appel au témoignage visible, vécu, observé chez sa mère et chez sa grand-mère. Je ne sais pas si elles sont encore vivantes, au moment de l'épître, bien entendu. Néanmoins, le témoignage rendues par ces femmes durant leur vie, la confiance portée aux Écritures, la confiance portée aux promesses de la Bible, la consolation qu'elles ont reçue par la Bible, l'espérance vivante qu'elles ont reçue, qui lui a été offerte par la Bible, l'assurance produite par la Bible, même dans la souffrance et même face à la mort, la connaissance de Dieu et de sa grâce révélée dans la Bible ont marqué le caractère de ces femmes. Tellement qu'aujourd'hui, Timothée y connaît la fiabilité des Écritures à cause des fruits abondants qu'elles ont portés dans la vie de sa mère et de sa grand-mère. Je m'adresse aux jeunes, à mes enfants, je m'adresse à tous les enfants de chrétiens qui ont eu le privilège immense d'avoir des parents qui placent leur confiance dans les Écritures. Vous avez devant vous un témoignage vivant de l'efficacité des Écritures, de la véracité des Écritures, de la fiabilité des Écritures. Vous avez leur témoignage. si vous ne l'avez pas, devenez-le pour vos propres enfants. C'est cela la vérité. Ils ont le témoignage vivant pour eux-mêmes de ce que la Bible et la parole de Dieu capable de soutenir et d'encourager une vie, de la porter, de réconforter un cœur. Je suppose également que Paul fait référence dans l'expression « sachant de qui tu les as apprises », je pense qu'il fait référence aussi à lui-même. Au chapitre 1, verset 13, il dit « retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi ». Au chapitre 2 et au verset 1, il dit « toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as reçu de moi ». En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et puis au chapitre 3, il dit « pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement ». Souvenez-vous, il est parti en voyage missionnaire avec l'apôtre. « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi ». Ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. À quelles souffrances je n'ai pas été exposé à Antioche, tu te souviens, à Icône, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il dit, tu le vois bien dans ma propre vie et tu as été témoin, tu as vu ces choses-là dans ma vie. C'est la parole de Dieu qui était mon enseignement. C'est la parole de Dieu qui a formé ma conduite. C'est dans la parole de Dieu que j'ai formé et trouvé des projets. C'est la parole de Dieu qui a nourri ma foi, qui a changé mon caractère de voyou en douceur, qui a développé mon amour, ma constance, ma persévérance. Et c'est aussi à cause de la parole de Dieu que j'ai connu les persécutions et les souffrances. Voyez-vous, il lui dit, tu as le témoignage de ta mère, de ta grand-mère, tu as mon témoignage, tu sais que ces choses-là sont vraies, qu'elles sont dignes de confiance. Alors prêche-les, Timothée. La deuxième raison, c'est qu'il dit au verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » En quelques mots, il dit, tu vois toutes ces choses qui ont nourri la vie de ta mère, de ta grand-mère, qui ont nourri ma propre vie, c'est par la parole de Dieu et ces mêmes paroles peuvent avoir le même impact dans la tienne. Elles peuvent transformer ta propre vie. Elles peuvent te rendre sage. La troisième raison, pour demeurer sur ce fondement des Écritures, verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Quelle affirmation! Toute Écriture est inspirée de Dieu. Si vous ouvrez la confession de foi de notre Église, les premières paroles, le premier point de la confession de foi qui fait 8 pages, c'est cela. Toute parole, toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu, les 66 livres. Ici, ça fait référence, bien entendu, à tout l'Ancien Testament, parce que à ce moment-là, c'était l'Ancien Testament qu'elles ont pu lire, la mère et la grand-mère de Timothée. Mais ça fait aussi, par extension, référence, ça s'étend à tout le Nouveau Testament. Jésus dit, par exemple, les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui me commande de les dire. L'apôtre Paul, il dit, moi, je n'ai pas de puissance, j'ai que de la puissance pour la vérité. L'apôtre Pierre, il dit, oh là là, Paul, il a écrit des choses difficiles à comprendre. Ça, c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Mais il dit, toutes ces paroles, elles font partie des Écritures. Toutes les paroles de Pierre font partie des Écritures, de tout ce que le Seigneur a rassemblé pour notre instruction. Vous voyez, toutes les paroles sont inspirés de Dieu. Toute la Bible, les 66 livres de la Bible sont inspirés de Dieu pour notre instruction. Paul dit, le Créateur de l'univers a écrit un livre, il a insufflé, soufflé un livre. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu a écrit un livre. Il dit, certainement comme moi, vous êtes déjà dit, oh là là, si seulement je pouvais être là avec les 12, si seulement j'avais été choisi avec les 12. Là, je pourrais entendre Jésus, je pourrais le voir, et je pourrais entendre ses enseignements. Certainement, ce serait plus clair que le pasteur. Ouais, c'est sûr. Mais Jésus a écrit un livre. L'esprit qui était dans Jésus, l'esprit qui animait Christ, l'esprit qui remplissait Christ, a soufflé un livre. Et l'esprit qui a soufflé ce livre, il est venu habiter dans nos cœurs, de sorte que l'on peut découvrir avec une parfaite clarté tout l'enseignement du Seigneur. Vous ne pourriez pas avoir meilleur enseignement. Dieu a écrit un livre. Ne devrions-nous pas chérir, aimer, lire, méditer, mémoriser, étudier, prêcher ce livre à cause de sa valeur infinie? Cette parole dit, elle peut nous enseigner, elle est utile pour nous enseigner. Dans le psaume 119, le psalmiste dit, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Cette parole, elle peut aussi nous convaincre, et si nous nous approchons d'elle avec humilité et désir d'obéissance, elle peut nous corriger. Psaume 119, versets 9 à 11, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Elle peut nous instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu a des vues extrêmement pratiques. C'est pour nous conduire à la ressemblance de Christ. Il dit, Paul en 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire de Dieu. » Et le miroir, c'est la Bible. « Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. » C'est-à-dire, toute notre vie, nous grandissons. Nous progressons dans une meilleure compréhension, une meilleure application à nos vies, une meilleure ressemblance à Jésus-Christ. Et tout cela par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, de prendre les Écritures et de les appliquer à nos vies. Je termine. Paul dit, pour toutes ces raisons, demeure sur ce fondement. Dans la vie des églises, dans le christianisme, il y a des modes. Tous lesquels qu'il y a une nouvelle mode dans le milieu évangélique ou dans le milieu protestant, avec, voilà, il faut faire comme ça pour que ça fonctionne, l'église. Certainement, on a besoin d'être en phase avec notre temps, avec notre époque. On a besoin d'appliquer l'Évangile à des situations, non pas celles du Moyen-Âge, mais celles que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais le fondement est le même. Les outils qui ont été donnés à l'apôtre Paul et aux chrétiens du premier siècle sont les mêmes, parce que Dieu est le même et parce que le cœur de l'homme, il est le même. Et donc, ils ont les mêmes besoins. Et pour être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ, c'est le même, les mêmes paroles. Et c'est pour ça qu'on a besoin de demeurer sur ce fondement, de ne pas nous en écarter si facilement. On peut penser que ça va marcher autrement sans la Bible. Et puis c'est le clash, c'est le chaos. C'est pour cela que Paul, dans ses dernières heures à vivre, ou dans ses derniers jours à vivre, il dit « prêche la parole ». On peut s'interroger sur est-ce que Timothée a entendu cet appel ? Ce serait terrible, non ? Qu'il ne l'ait pas entendu. Mettre autant de poids dans une injonction. Aimer tellement son fils. Vouloir avec tellement de persuasion qu'il prêche les Écritures. Est-ce qu'il l'a fait ? Lisez la fin de l'Épître. Paul va être décapité. Probablement dans les années 67, 68. Mais dans les années qui ont suivi, il y a une autre épître qui a été écrite. Et c'est l'épître aux Hébreux. Et je crois que là, on a une indication. Savoir si Timothée a entendu cet appel vibrant de l'apôtre Paul à prêcher la parole. Malgré l'opposition, au risque des persécutions et des emprisonnements. L'a-t-il fait ? Regardez, chapitre 13, verset 22. C'est la conclusion de l'épître. « Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » 13 chapitre. Verset 23. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. » Sachez que notre frère Timothée a été relâché, et s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Si Timothée a été relâché, s'il a été libéré, c'est qu'il a été d'abord emprisonné. Et s'il a été emprisonné, c'est qu'il a bien entendu l'appel de l'apôtre Paul à la fidélité au ministère de la parole que le Seigneur lui a confié. On peut, nous aussi, tomber dans le découragement, dans l'abattement, dans la timidité. On peut tomber dans des pensées vaines de se dire « à quoi bon ?» Ça ne marche pas. La parole de Dieu, la Bible, tous les jours, le matin, le midi, le soir, la Bible. Puis se dire, il y a autre chose peut-être. Ces hommes ont accepté la prison à cause du message qu'elle porte. Ces hommes ont accepté les bûchers d'être découpés, brûlés à cause du message qu'elle porte. On n'accepte pas ces choses pour des fables. Et la Bible est la parole de Dieu, tranchante, pénétrante, vibrante. Elle parle à nos cœurs, elle change nos vies. Et c'est pour ces raisons que nous devons l'aimer, la serrer sur nos cœurs, la lire, la méditer et la prêcher jour après jour. Que Dieu nous vienne en aide.